Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et ben, on va commencer par se dire à tous et à toutes, d'abord Shavua Tov, mais surtout Hanouka. Saméa, Rav Lemel est en ligne avec nous en présent. Rav Lemel, bonsoir, Shavua Tov. Et vous voulez vous développer l'idée de la confiance en Dieu, étant donné que c'est vraiment un des traits de caractère de Yosef. Un moment où tout le monde sombrerait dans le désespoir, abandonné par ses frères, mis en prison en étant totalement innocent, en ayant résisté en plus à des trucs qui sont irrésistibles normalement, avoir tout fait et être en prison depuis déjà 10 ans, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Mais Yosef, il a confiance en Dieu. Et d'ailleurs, comme d'habitude, Maaseh Avot Siman Habanim, vous voulez que ça nous aide à savoir comment on fait nous dans nos vies, en n'ayant pas ce niveau-là, face aux difficultés, c'est là où on en a le plus besoin, mais aussi face aux choses très belles.
Oui, tout à fait, mon cher Bernard. C'est vrai que Yosef, en effet, c'est une histoire tellement particulière, tellement unique dans l'histoire du peuple juif. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ce début de la paracha dans laquelle, pardonnez-moi, Vayehi Miketz, Shnataim Yamim, et voilà qu'il va y avoir à la fin de ces 2 ans où Pharaon Cholem, le pharaon, fait ses fameux rêves. Et à partir de cela, eh bien, l'histoire de Yosef se transforme du tout au tout, puisque comme nous le savons, il va être appelé très rapidement à interpréter les rêves du pharaon, il va devenir vice-roi d'Égypte. Et à ce sujet, le Midrash nous dit « Ketz sam la chosher », ce qui veut dire « Dieu a mis une fin, la chosher, à l'obscurité ». C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, cette histoire qui est bouleversante, qui est dramatique, eh bien, elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter d'un seul coup, tout se transforme, tout s'ouvre. Et ici, on nous montre au fond ce qu'a été la qualité particulière de Yosef. Elle est double au fond, enfin il en a énormément, mais ici il y a à la fois ce renforcement dans son bitachon, ce renforcement dans sa confiance profonde dans le créateur de l'univers. Et puis surtout, vous savez, Yosef se retrouve de manière tellement injuste, accusé à tort, en prison et au passage, on voit au combien ici, eh bien, ce concept-là d'accusation à tort existe depuis la nuit des temps. Et c'est bouleversant de voir comment, voilà, Yosef se retrouve parce que la femme de Potiphar l'accuse de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et voilà, il est dans cette prison, il espérait sortir. Et puis, eh bien non, il ne sort pas. Et alors là, on aurait pu imaginer quelqu'un qui, pardonnez-moi l'expression un peu légère, qui râle, qui n'est pas content, qui est presque en colère contre le créateur de l'univers, qui se dit « mais c'est pas juste, c'est pas normal, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Et qu'est-ce que Yosef fait ? Eh bien, Yosef fait ce que nous sommes censés toutes et tous faire. Dans toutes les situations de la vie, il essaye de réfléchir. Il se remet en cause, il essaye de comprendre quel est le message. Et à partir de cela, il perçoit qu'il va devoir se raffiner encore plus dans cette confiance dans le créateur de l'univers. Dire qu'au fond, eh bien, Baruch HaGever, Asher Yiftar Bashem, béni soit l'individu qui met toute sa confiance dans le créateur de l'univers. Et vous savez que c'est un des enjeux, au fond, les plus fondamentaux de l'individu dans son existence, de savoir placer pleinement, totalement, complètement, absolument sa confiance en Dieu. Dans un monde dans lequel, eh bien, on a tendance à mettre cela de côté. On est là pour prier Dieu, c'est vrai, mais au fond, est-ce qu'on lui fait véritablement confiance? Et vous savez, quand je dis cela, évidemment, et ce n'est pas une vue d'esprit, je me parle aussi jusqu'à où sommes-nous prêts à avoir cette confiance, pardonnez-moi, pleine et entière dans le Créateur de l'univers. C'est ce que Yosef fait. Mais Yosef, donc, comme on l'a vu, il se remet en cause, il essaie de comprendre, mais au fond, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici et sur quel point je dois travailler? Et ce qui est très curieux, c'est que dans la vie, eh bien, on a tendance parfois à faire cela lorsqu'on est confronté à des choses qui sont un petit peu difficiles. Mais il faudrait peut-être faire aussi la même chose lorsque l'on est confronté à des situations qui sont au contraire merveilleuses, belles, positives, sympathiques. Parce que dans tous les cas de figure, on sort de la norme. Lorsqu'une difficulté arrive, alors on sort de la norme de ce quotidien dans lequel les choses sont plus ou moins toujours les mêmes. Et aussi lorsqu'il arrive quelque chose d'extraordinaire, une joie qui est liée soit à la naissance d'un enfant, une joie qui est liée à des fiançailles, à un mariage, une joie qui est liée à une réussite dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, là où vous voulez, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, de particulier. Il faut être capable aussi à ce moment-là de se remettre en cause et de se dire, mais au fond, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quelle est la leçon que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois en faire? Sur quel point maintenant je peux et je dois travailler? Souvent, on veut travailler sur ce qui ne va pas lorsqu'on est confronté à des choses qui ne vont pas. Mais on oublie parfois qu'il y a lieu de travailler lorsque les choses vont bien, voire même sont extraordinaires. Et c'est peut-être la leçon que j'avais envie de partager avec vous. Lorsque l'on est confronté à une situation nouvelle, une situation positive, une situation sympathique, posons-nous la question, quels sont les points sur lesquels maintenant nous pouvons progresser? Pourquoi? Pour une raison très simple, lorsque l'on est heureux, lorsque l'on est content, lorsqu'il nous arrive quelque chose de positif, c'est-à-dire que l'on voit immédiatement la dimension positive, alors cet état de bien-être est là comme étant une proposition pour se dire « mais maintenant que je me sens bien, alors il y a des points sur lesquels je peux travailler, des points sur lesquels je peux progresser. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais travailler un peu plus sur ma sensibilité, sur mon écoute, sur ma rancœur, sur ma colère, sur la capacité de donner, que sais-je. Chacune et chacun d'entre nous peut trouver cela à l'intérieur de sa vie. Et travailler aussi, comme Yosef l'a fait, sur cette notion de bitachon, et je voudrais m'y arrêter un instant. La notion de bitachon, de confiance en Dieu, elle n'est pas simple. Pourquoi? Au-delà du fait qu'il faut être complètement imprégné de cela. Mais, comme nous sommes dans un monde, dans un univers dans lequel nous devons d'agir, rappelons-nous que tous les vendredis soirs, nous disons « Asher bara Elohim, la Asot, que Dieu a créé un univers, la Asot pour faire ». Et ce faire, c'est à nous de le mettre en place. Donc on a une obligation de ce qu'on appelle « hishtadlut », de faire des efforts. Et lorsque l'on fait des efforts, au bout d'un moment, on peut s'imaginer que le résultat est exclusivement lié aux efforts que l'on a faits. On peut être persuadé qu'au fond, eh bien, c'est nous qui avons tout fait. Et cette obligation que l'on a de faire des efforts risquerait paradoxalement de nous éloigner du Créateur de l'univers. Il y a ici tout un équilibre à mettre en place, entre d'un côté se rappeler que l'on doit faire des efforts et au fond, peut-être prendre cette idée que nous donnent nos maîtres et nous disent lorsque tu fais un effort, eh bien vois-toi comme étant quelqu'un qui est porea mas, c'est-à-dire qui paye son impôt. Il faut, pour obtenir quelque chose dans la vie, faire un effort. Il va falloir agir de manière concrète. Alors, je le fais parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et comme on m'a demandé de le faire, alors j'essaie de le faire le mieux possible. Un des éléments qui est là pour nous rappeler que justement, ce ne sont que des éléments techniques que l'on doit mettre en place, mais que le reste, c'est ce qu'on appelle siyata d'ishmaya, une aide divine, c'est aussi le Shabbat. Ce fameux Shabbat dans lequel, eh bien, on s'arrête de tout produire, un moment dans lequel on se dit au fond, tout dépend du Créateur de l'univers. Nous nous arrêtons de produire pour nous rappeler justement cela. Alors, voilà ces deux enseignements que je voulais partager avec vous. Tout d'abord, cette notion de bitachon, de confiance que Yosef va développer vis-à-vis du Créateur de l'univers, mais qui va être le fruit d'un travail intérieur qui est lié à une situation dans laquelle il aurait pu se révolter. Mais lui, au contraire, nous dit, eh bien, cette situation, si elle est là, je vais l'interroger. Je vais essayer de comprendre quel est le message qui m'est adressé et à partir de là, commencer à faire un travail dans lequel je vais pouvoir un petit peu plus grandir. Et puis cette idée d'être capable de faire cela lors des événements positifs et joyeux, se dire « mais au fond, je suis dans quelque chose d'extraordinaire », alors dans ce cas-là, ça m'interpelle et ça doit m'amener à faire ce travail sur moi-même, progresser et avancer. Et surtout, surtout, ce bitachon, cette confiance que l'on doit travailler au quotidien, ce n'est pas simple. Faire ce que Dieu nous a demandé de faire dans ce monde, d'agir, mais de se rappeler que tout des plans de lui et évidemment espérer très fort que la lumière qui arrive à Yosef, Ketz Sam Lachosher, ce moment dans lequel l'obscurité s'arrête brusquement et la lumière resplendit, soit un moment qui nous touche toutes et tous de la manière la plus merveilleuse qui soit, de manière individuelle et aussi au niveau collectif, au niveau du peuple d'Israël, Bezrat Hashem, que nous ayons en permanence cette lumière qui nous illumine, qui nous réchauffe et surtout qui nous indique le chemin à suivre. Shavua Tov.
Rav Lebel, je vous remercie. Et Shavua Tov et Chanukah Sameach. On part à présent pour Jérusalem où l'on retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, shalom. Shavua Tov et Chanukah Sameach.
Ah, on a attrapé un petit peu froid pendant Shabbat quand même.
Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Tout va s'arranger.
C'est embêtant pour un enseignant, par contre, excusez-moi, qui suis journaliste, je sais que c'est des choses, on ne veut pas jouer avec la voix. Et d'ailleurs, je profite, Rav Mordechai, avant de vous céder la parole, vous voulez parler ce soir du lien entre Yosef et Hanouka. Pourquoi ? Parce que les parachutes tombent toujours avec les événements qui sont... C'est-à-dire, si Hanouka tombe après une paracha où on parle de Yosef et ses rêves, il y a évidemment, ça tombe toujours en même temps. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter avant d'entendre votre explication de ce soir, votre Dvar Torah. Je voudrais vous poser une question personnelle et vous allez être surpris parce que je ne le fais jamais. On a vu tous les vidéos des otages en train d'allumer les bougies de Hanouka dans des tunnels. Je crois que vraiment, c'était glaçant. Et on y voit un espoir, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un espoir, parce qu'ils ont tous été assassinés 15 jours après. Ils sont 6. Et on les voit dire, ils allument les bougies chez Riano, ils sont rachitiques, ils sont squelettiques. Et je voudrais savoir ce que ça vous a inspiré de voir ça.
Bah, ça m'a
Yosef, Hanouka, on est en plein dedans.
Le spectacle de l'héroïsme juif. J'ai vu l'héroïsme juif dans les conditions indignes, je dirais, des camps de concentration nazi-islamistes. Des gens rachités continuent à allumer les bougies de Hanouka. Ça m'a rappelé les histoires que j'ai lues sur l'image de Hanouka à Auschwitz. On peut dire qu'on a en face de nous des nazi-islamistes. Amnesty International vient de découvrir, et encore avec beaucoup de précautions, mais on voit des gens qui sont d'authentiques résistants. Les voilà les résistants juifs. Voilà les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm étaient cachés dans des grottes et ils continuent à étudier la Torah, enseigner la Torah dans les mêmes conditions que nos frères juifs qui ont été assassinés. Ça m'a inspiré un profond respect, un profond amour pour le peuple juif, une profonde confiance dans notre capacité de résilience. On a passé 2 ans terribles, il nous reste un otage encore à récupérer. On est loin d'avoir terminé. On est dans un scénario qui est un scénario de guerre, mais aussi dans un scénario dans lequel on prie tous 3 fois par jour depuis 2000 ans, mais encore plus maintenant pour la véritable libération messianique pour laquelle on prie 3 fois par jour. Et en fait, ça m'a inspiré ça. Voilà, beaucoup de sens de l'éternité du peuple juif, de la force et la résilience du peuple juif. Elle est là. Et ça m'a rappelé aussi une autre histoire. Un type qui racontait, il disait, j'étais à New York, et alors je me demandais comment mes petites lumières de Hanouka pouvaient éclairer le monde. Il y avait les lumières de Noël. Et puis d'un coup, il y a une panne d'électricité, tout s'est éteint. Les seules lumières qui restaient, c'était les miennes. Voilà. Alors, ça me rappelle, je raconte chaque année, mais c'est exactement ça. Dans l'obscurité qu'on a vécue pendant 2 ans, cette obscurité d'antisémitisme et de haine, ce déchaînement meurtrier, génocidaire, dans cette folie qu'on a vécue, il y a des résistants. Et voilà, ils étaient là, on les a vus, et on est rempli à la fois d'émotion et de respect, et ça doit nous renvoyer aussi à ce que les otages ont vécu. Parce que finalement, aujourd'hui, en Israël, on est rentré dans une espèce de post-trauma collectif, je crois, dans le peuple juif aussi. Mais les otages aujourd'hui, leurs familles, les soldats qui ont été tués, leurs familles, tous ceux qui ont été touchés directement ou indirectement, ont droit d'être entourés, aimés, respectés par chacun d'entre
nous. C'est des tzadikim. Moi, je vous le dis, c'est des tzadikim. Voilà. C'est des tzadikim, quelqu'un qui fait ça. Et qui chante Shalom Aleichem le vendredi soir, il n'y a rien sur la table, il est dans un tunnel, il n'a rien à manger. Et on remercie Dieu, un tzadik. Un tzaddik, excusez-moi, je ne parle pas à votre place, c'est un tzaddik.
C'est un tzaddik, c'est un juif. Voilà le juif. Si on cherche des modèles de juifs dans les périodes de malheur, les voilà, ils sont devant nous.
Rav Mordechai, Yosef et Hanouka, on vous écoute.
Ah, voilà. Justement, Yosef,
oui,
un jeune homme juif de 17 ans, vendu en Égypte, livré, j'allais dire, à l'esclavage avec une tentative d'esclavage sexuel d'une certaine manière, et puis qui va résister. Alors, vous savez que la faute de la vente de Yosef par ses frères, c'est une faute terrible parce que dans chaque génération, on doit la payer. Tous les exils qu'on a vécu, toutes les accusations de crimes rituels que l'on vit, viennent à la suite, nous dit le Chafetz Chaim. C'est rapporté par Rav Elchanan Wasserman dans son Kovetz Ma'amarim. Il a posé la question au Chafetz Chaim. Il lui a dit, comment ça se fait qu'on est accusé de crimes rituels? Il lui a dit, c'est la suite de la vente de Yosef par ses frères. Ils ont trempé une tunique dans du sang de chevreau. Ce sang-là, on doit le payer de génération en génération, d'exil en exil, avec des accusations de crimes rituels, la dernière étant le génocide des Palestiniens. Mais en fait, qu'est-ce que cette faute-là a défait? Elle a défait le lien entre Yaakov et Yosef. Quel était le lien? Yaakov est parti en exil pour constituer le peuple juif, à Haran, chez Lavan. Et là-bas, il a eu Yosef. Et Rashi nous explique que quand Yosef est né, Yosef qui était le contraire et celui qui pouvait empêcher Esav d'avoir une main sur Yaakov, lorsqu'il est né, Yaakov a dit « Je peux maintenant rentrer en Eretz Israël ». Pourquoi est-ce que Yaakov et Yosef sont liés par ce pacte-là? Pourquoi pas Réhouven, qui est le fils aîné? Pourquoi pas Yehuda, qui est l'ancêtre de la tribu des rois? Pourquoi pas Lévi, qui est l'ancêtre rien moins que de Moshe Rabbeinu? Pourquoi ça passe par Yosef? Yosef et Yaakov, ils sont liés par un lien qui est le lien de l'exil. Yaakov, il est resté chez Lavan, comme il dit à Esav, j'ai observé les 613 mitzvot, j'ai habité Gartim, Yavan, j'ai habité avec lui, c'est Emmanuel que Tariag, il a observé les 613 mitzvot. Yosef, il est en Égypte, il reste ce qu'il est, dans une résilience spirituelle absolue, si bien que l'on bénit nos enfants, nos garçons notamment, en invoquant le nom des deux fils de Yosef, Ephraim et Ménaché. Mais il y a quelque chose de plus. En vérité, Yosef et Yaakov, c'est les deux pans les plus nécessaires au peuple juif. Il y a la Torah et la crainte du ciel. Une personne qui étudie la Torah mais qui n'a pas la crainte du ciel s'appelle un intellectuel. Une personne qui a la crainte du ciel mais qui n'étudie pas la Torah s'appelle un idiot. Parce que c'est quelqu'un qui va craindre là où il ne faut pas craindre et qui va inventer des lois là où il n'y en a pas. Il faut l'étude de la Torah et la crainte du ciel. L'étude de la Torah, c'est Yaakov. La crainte du ciel, c'est Yosef qui, en exil, résiste à la femme de Potiphar, résiste à la civilisation égyptienne, et donc reste ce juif résilient sur le plan spirituel. Quand les frères ont vendu Yosef, ils ont cassé cette relation. Ils ont inventé une Torah dans laquelle on pouvait soi-disant mettre Dieu de son côté pour faire n'importe quoi. Une Torah sans la crainte de Dieu, une Torah avec l'appropriation de Dieu, une Torah sans la crainte de Dieu, sans la verticalité qui fait que j'étudie la Torah et je reste en quelque sorte assujetti à Hachem. C'est ce lien-là qu'ils ont cassé. Et ce lien-là, il fallait le restaurer. Au moment, on le verra dans les prochaines parachas où ils vont être ensemble, alors ils vont se rapprocher, donc Yosef et Yehuda, ce lien va commencer à se rétablir et ça permettra à Yaakov de revenir vers Yosef. Quel est le lien avec Hanouka? Les Hashmonaïm ont affronté la civilisation grecque. Que dit la civilisation grecque? La civilisation grecque dit « vive l'étude de la Torah à l'université ». La civilisation juive dit « vive l'étude de la Torah à la yeshiva ». Les Grecs disent, et à la suite, le monde occidental, vous pouvez étudier autant que vous voulez, l'essentiel c'est que vous restiez assujettis à nos valeurs culturelles. Et nous disons non, nous étudions la Torah pour bâtir notre relation de verticalité avec Hachem. Il est en haut et nous sommes en bas. Il y a un verset qu'on récite tous les vendredis après-midi, tous les samedis après-midi dans la tefila chez Sfaradim. Reshit Rochma Yirat Hashem, le principe primordial. Reshit Rochma, le principe primordial de la Rochma, de la sagesse, de l'intelligence, de la construction intellectuelle. Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Sechel Tov le Cholzem, ça fait une bonne intelligence pour ceux qui les font. Qui font quoi? Qui font les mitzvot de la Torah. Les Hashmonaim, quand ils rentrent dans le Bet Amigdash, ne s'occupent pas de restaurer tout de suite la avoda, les korbanot, les sacrifices. Ils vont vers la menorah. La menorah, elle symbolise la Torah. Et elle symbolise la Torah, elle symbolise la Torah dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire la Torah soumise à Hachem. Les Grecs avaient voulu créer, tout au long des dizaines d'années d'occupation d'Israël, une Torah complètement désincarnée, qui amenait à une destruction spirituelle. Les Hashmonim rétablissent le lien entre la Torah et la crainte, c'est-à-dire cette idée que nous étudions la Torah pour être, en quelque sorte, les porteurs du message de Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, dans le verset « Ish el achiv aval hashemi manartu », vous savez que les frères, à un moment donné, lorsque Yosef va se mettre à les maltraiter, ils reconnaissent leur faute. Il y a un verset dans lequel il dit « Ish el achiv aval hashemi manartu », c'est-à-dire « Chacun a dit à son frère, nous sommes coupables ». Ça commence 5 fois par Aleph, et c'est 5 Aleph. Aleph, c'est une lettre qui se calligraphie avec un Vav et 2 Yud, donc elle a une valeur numérique intrinsèque de 26, et 5 fois 26, c'est la valeur numérique de Yosef. En fait, Yosef, les frères, à un moment donné, vont reconnaître qu'il faut rétablir ce lien-là. Les Hashmonaïm, en allumant la menorah, les 6 pans de la menorah, avec le pan merkazi de la menorah, ils vont reconnaître ce lien intrinsèque entre le Beth Amikdash et l'étude de la Torah et la crainte de Dieu. Il faut rappeler aussi une autre chose, ça marche bien d'après nos datations, que Platon a rencontré le prophète Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il se lamentait sur la destruction du Beth Amikdash, et Platon lui a dit « tu pleures sur des pierres ». Il n'a dit pas du tout. Ces pierres étaient la source de mon inspiration, c'est-à-dire la raison pour laquelle j'étudie la Torah, la raison pour laquelle je m'accroche à cette sagesse. Mais il a dit aussi autre chose, une réponse que Platon ne pouvait pas comprendre, c'est qu'en pleurant, il reconstruisait le Beth Amikdash. Car en pleurant ce qui nous manque, c'est-à-dire la possibilité de nous inspirer du Beth Amikdash, de tirer de tout ce que le Beth Amikdash nous donnait comme crainte de Dieu et comme amour de Dieu, et bien en pleurant sur ce manque-là, on restaure en quelque sorte cette force avant même que le Beth Amikdash ne soit construit. Voilà mon cher ami, le lien qu'on peut établir entre Yosef et Hanouka, en se souhaitant à toutes et à tous Hanouka Sameach. Il faut rappeler que d'après les livres de la Chassidoute, Hanouka est le moment où les décrets qui ont été promulgués à Hoshana Rabba sortent définitivement. On a 8 jours de prière, sachons-le, le ciel est ouvert, toutes les prières sont acceptées. Commençons par prier aussi pour que le dernier otage puisse être assassiné, puisse être enterré en Eretz Israël, que Am Israël soit épargné, évidemment comme toujours, la Géoula, la délivrance finale. À toutes et à tous, donc Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Shavuot Tov et Chanukah Sameach.
À très bientôt.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Guy. Bonsoir Rav Guy et Shavuot Tov. Alors, Avgué, vous voulez parler ce soir d'une notion très juive qui s'appelle Ashgacha Pratit. Je crois que c'est même le Rabbi Nachman de Breslav qui dit chaque jour, ou le Rabbi Lubavitch, l'un des deux, enfin un chassid, qui dit chaque soir, te dit quand dans la journée est-ce que j'ai vu Ashgacha Pratit, parce que c'est obligé que tu l'as vu, au moins une fois. C'est ce qu'on peut traduire en français par providence divine. Et alors, le point de départ de votre réflexion vient du fait que Yosef, dans sa prison, voit partir un de ses co-détenus et lui dit « Écoute, quand tu parles à Pharaon, c'est marrant parce que ça nous rappelle les otages, évidemment. » Et il dit « Quand tu vois Pharaon, c'est pas dis-lui de pas m'oublier. » Eh bien, franchement, c'est un acte que n'importe qui peut faire. Et ça lui a été reproché, il a même été puni pour ça. Alors, c'est le point de départ de votre réflexion de ce soir, Avgué.
Oui, effectivement, il s'est pris 2 ans de prison en plus. Il avait déjà fait 10 ans à cause des 2 mots, Zachar et Skartani, donc ce qui veut dire « souviens-toi, rappelle-moi », etc. Ces 2 mots, ils lui ont coûté 2 ans de prison supplémentaire. Et la question qu'on se pose, c'est qu'a priori, on ne voit pas le problème. Pourquoi on ne voit pas le problème? Parce que Yosef a fait ce qu'on appelle la « hishtadlout », c'est-à-dire faire une démarche tout à fait classique, que d'ailleurs Yaakov a fait très souvent avec Esav, on l'a vu dans Vayishlar, c'est-à-dire que se préparer en faisant ce qui est nécessaire selon les lois de la nature pour obtenir la fin de son calvaire. Là, il est depuis 10 ans en prison, il est poursuivi pour rien du tout, et il espère qu'en aidant le Sar HaMashkim, et d'ailleurs, il l'interprète comme ça, il se dit, s'ils sont venus ici, dans cette prison, ce qui n'est pas normal, que pour une bêtise, une broutille pareille, on mette en prison un dignitaire de Pharaon, c'est sans doute pas par hasard. S'ils ont fait ce rêve, c'est pas par hasard. Si j'ai la solution, c'est pas par hasard. Bref, tout ça, il se dit, c'est clairement l'Ashgacha Pratit, la providence divine qui m'accompagne. D'ailleurs, Youssef HaTzadik reste quand même pour nous un phare dans ce domaine, puisqu'il a été vendu par ses frères, et donc rejeté de la famille de sa propre famille, et il n'a pas abandonné, absolument pas abandonné, sa foi, alors que, bon, normalement, dans ces conditions, on peut être rebelle, on peut se fâcher contre sa famille, évidemment, mais aussi contre Dieu. Et il continue à résister à toutes les épreuves, à rester fidèle au message de son père, de ses frères. Donc il est exemplaire dans la dimension de l'Ashgaha Pratit, de la providence, de cette conscience que Dieu nous accompagne. D'ailleurs, nos sages nous disent que lorsqu'il a été accompagné par ses geôliers, c'est-à-dire lorsqu'il a été vendu par ses frères, donc il a été vendu à des Yishmaelim. Les Yishmaelim, donc les Ismaélites, ils ont l'habitude de se déplacer avec du goudron, et que là il transportait des parfums, et il a tout de suite senti, Youssef, que on peut le dire sentir à tous les niveaux, et il a senti cette bonne odeur, il a vu aussi que c'était pas normal, et il en a compris que c'était un sourire de Dieu, qu'Hachem lui disait: je suis avec toi, je te abandonne pas, ne crois pas que c'est pour ton mal, au contraire c'est pour ton bien, tu vas t'en sortir la tête haute et tu vas trouver ta place en Égypte. Tout ça, il l'entend, même si ce n'est pas dit, mais c'est compris, il a compris et il le vit. Et justement, d'ailleurs, c'est parce qu'il est un très, très haut niveau de confiance en Dieu qu'on lui reproche d'avoir dit deux mots. Il aurait dû ne rien dire, sachant que les Égyptiens sont en général très, très ingrats. Donc, le Sar Hamashkim, d'ailleurs, l'a oublié. Le maître Échanson l'a oublié. Il ne s'est rappelé de Youssef que lorsque Paro en avait besoin, parce que Pharaon lui-même a rêvé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé de Youssef, mais absolument pas de lui-même, etc. Donc, on voit vraiment chez Youssef une démarche qui n'est pas à son niveau. Nos sages nous disent qu'à son niveau à lui, il ne fallait pas faire sa démarche. Pourquoi? En fait, Hachem attend de nous, évidemment, le commun des mortels, nous devons faire la Ishtadlout, c'est-à-dire nous ne devons pas nous appuyer et compter sur un miracle. Ça, c'est interdit. On doit faire toutes les démarches nécessaires pour se guérir, si on a besoin de soins, pour avoir gagné notre gagne-pain. Nous avons besoin de faire des démarches tout à fait naturelles et ne pas dire « bon, Dieu pourvoira, Dieu fera ». Donc ça, c'est clair, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Donc là, Youssef, a priori, dans ce domaine, il fait ce qu'il faut faire. Sauf qu'à son niveau à lui, le fait de demander au Sar Hamashkim, c'était superflu, c'était une épreuve qu'Hachem lui a envoyée, parce qu'il voulait qu'à son niveau à lui, Youssef, il soit à un niveau supérieur du commun des mortels et ne fasse même pas la demande, et qu'il compte totalement sur l'intervention divine, qui n'a pas d'ailleurs manqué d'arriver. Mais deux ans plus tard, s'il n'avait pas fait cette remarque, s'il n'avait pas demandé au Sar Hamashkim, il aurait été libéré deux ans plus tôt et Pharaon aurait rêvé son rêve deux ans plus tôt. Mais à cause de cette erreur, encore une fois infime, et qui ne correspond que à des gens du niveau de Youssef, on a considéré que c'était une erreur de sa part, mais ce n'est pas le cas pour nous tous. Évidemment, l'Ashgaha Pratit, on peut l'avoir encore aujourd'hui, d'une façon incroyable. Et comme vous l'avez dit, c'est bien de faire un bilan chaque jour de ce que nous avons vécu. Je voudrais quand même vous raconter une petite histoire, si vous permettez, d'une situation de l'Ashgaha Pratit, de providence divine, absolument inimaginable, incroyable, où je pense personne ne pourra contester la présence et l'intervention divine. Ça s'est passé il y a quelques années déjà. C'est une famille de Londres, de Stamford Hill, qui prend un taxi pour se rendre à l'aéroport de Heathrow pour voyager et partir à New York. Et sur la route, donc, ils prennent un taxi. Ce taxi a une première crevaison, donc là, il n'y a pas de problème. Il a un pneu de rechange, comme nous tous, il y en a un pneu dans le coffre. Donc, il change le pneu. Donc, déjà, on perd des précieuses minutes sur le chemin de l'aéroport. Puis après, le deuxième pneu qui explose. Donc là encore, là, c'est vraiment pas fréquent. Mais là, il n'a plus de pneu de rechange. Et donc, il faut qu'il se rende dans une station-service, qu'il trouve un pneu, ça prend encore de longues minutes très précieuses lorsqu'on est en retard pour l'aéroport. Mais donc, il continue sa route. Il y a un camion qui passe devant lui et qui a un chargement de petites pierres, de gravillons, qui tombent sur le pare-brise. Donc, il y a une chute de gravillons sur le pare-brise. Donc, le pare-brise est extrêmement abîmé. Bon, discussion entre le chauffeur du camion et entre notre chauffeur de taxi, ça prend encore quelques minutes. bien que le chauffeur de taxi décide de continuer sa route, malgré le danger qu'il a dans, il roule un peu vite, il prend des risques, il fait aussi des infractions au code de la route. Il est arrêté par les policiers qui lui dressent un procès verbal. Il essaie de leur dire que c'est urgent. Alors, quatre événements quand même qui arrivent coup sur coup, donc vous imaginez bien. Comment ils doivent, les passagers deviennent fous de rage, quoi. Ils voient les minutes passer et ils voient surtout leur avion décoller sans eux. Et ils arrivent effectivement à l'aéroport de Londres. Et là, l'avion, ben c'est trop tard. L'avion, il a déjà décollé. Et ils sont vraiment furieux. Bon, lui, il n'ose même pas demander d'être payé, évidemment. Il ne va pas demander d'être payé dans ces conditions. Il a tous les, il a un PV, il a un pare-brise à changer. Bref, une catastrophe. Plus les pneus encore à changer. Et il repart un peu penaud et attristé par cette terrible journée. Et sur le chemin du retour, donc il allume la radio. Et là, une demi-heure, trois quarts d'heure après le décollage de l'avion, vous avez rappelé peut-être ce qui s'est passé à Lockerbie, l'avion du Paname, la Paname qui est tombé. Eh bien, c'était cet avion-là que devait prendre cette famille de Stanford Hill, qu'ils ont raté, bien heureusement. Puisqu'ils ont pris l'avion d'après de British Airways et ils ont été sauvés miraculeusement. Une histoire absolument incroyable. Comment la providence divine, deux crevaisons, des gravillons sur le pare-brise, plus des policiers qui vous arrêtent pour des infractions, ça c'est très fort. Avec tout ça. Incroyable. Et c'est une histoire qui est absolument inimaginable et c'est évidemment cette famille à remercier HM de tout son cœur et de son âme de l'avoir sauvé. Alors peut-être que nous, on n'a pas tous les jours ce genre de miracle évident qui nous arrive, mais peut-être qu'on a beaucoup plus qu'on pense. D'ailleurs, on est souvent étonné de voir des choses qui se passent et finalement on se rend compte que c'était pour notre bien, même si on avait l'impression que c'était le contraire. Ça, on le voit des fois dans notre vie à tous les jours, pas de tous les jours, mais de temps en temps dans notre vie. Puis il y a des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on le saura plus tard, des fois des années plus tard, que ce qui nous est arrivé, qui nous paraissait une catastrophe, était finalement une très bonne nouvelle. En tout cas, je voulais raconter cette histoire pour nous dire franchement, Youssef HaTzadik, c'est l'exemplarité de la confiance en Dieu. C'est pour cela qu'on est très exigeant envers lui, peut-être beaucoup plus exigeant qu'envers chacun d'entre nous, mais n'empêche que la règle reste la même. Il faut faire des démarches, mais toujours se dire que ces démarches, nous devons l'obligation de les faire, mais les résultats, la conséquence de ces démarches ne sont pas dans nos mains. Et je donne à mes élèves une règle, je leur dis, lorsque vous avez un rendez-vous d'affaires, un déjeuner d'affaires par exemple, et vous aspirez absolument que votre personne, la personne qui est en face de vous, signe le contrat, dites-vous que vous devez avoir une sérénité totale pendant le repas en disant qu'il signe ou qu'il ne signe pas, ça doit être égal. Pourquoi ? Parce que c'est HM qui m'envoie, c'est Dieu qui m'envoie la parnassa. Je ne dois pas imposer à HM de recevoir ma parnassa par ce monsieur si ce n'est pas celui-là. Eh bien, ça viendra par ailleurs, et c'est comme ça que les hommes d'affaires me disent qu'ils vivent au quotidien, voient avec tous les jours des choses incroyables. Ils pensaient que gagner leur vie à droite, finalement, ça vient de la gauche. Bref, tout simplement, c'est comme ça qu'on vit tellement mieux et avec tellement de sérénité que je vous souhaite à tous, justement, la sérénité du Shabbat, mais que la sérénité du Shabbat nous accompagne aussi pendant la semaine.
Amen. Amen. Je vous remercie. On notera en vous écoutant et en entendant cette Racha que les otages, ils sont restés 2 ans en prison. Ils ont été enlevés Simchat Torah, ils ont libéré Simchat Torah 2 ans après. Donc, pourquoi? On ne sait pas. Avgué, je vous remercie. Et Shavuot Tov, Chag Sameach. Shavuot Tov et Chanukah Sameach.
Shavuot Tov et très bonne fête de Chanukah. Amen. Yom Hashem lo yivne ba'yis, shalom lo yivoy na boy, Yom Hashem lo yishmari yid, shalom shokat shoy me'er.